la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour une seconde émission avec Nicolas Delarquier. Bonjour.
Bonjour.
Et merci. Je suppose que le rythme de travail d'un conservateur de musée et en plus commissaire de l'exposition est bien dense, surtout en cette période touristique. Donc, merci de nous consacrer du temps. Dans la première émission, donc, vous avez présenté Oliver Larry. Comment s'est faite cette exposition dans les 30 ans du Carré d'Art? C'est important. Art contemporain au musée de l'art humanité. Nous avons écouté Oliver Larry devant certaines de ses œuvres. Et nous nous retrouvons pour que vous évoquiez justement à nos auditeurs certaines de ses œuvres. Et je voudrais rajouter que c'est la première fois qu'Oliver Larrick fait une exposition vraiment de résidence de création dans un musée. C'est ce qu'il nous expliquait. Il a déjà travaillé dans des musées, mais pour lui, et on a un tout petit extrait qu'on a écouté la dernière fois, il était très ému et très... C'était une expérience fabuleuse pour lui. Je pense que vous l'avez côtoyé et... C'est un homme charmant,
alors
très
déjà,
discret.
Déjà, c'est la rencontre avec Oliver oui. Larrick qui a été passionnante parce que c'est vrai qu'on peut avoir un petit peu peur de se dire il va falloir que je travaille avec un artiste, il va falloir que je le suive, il va falloir que je m'adapte, etc. Et en fait, il a été très, très accessible. Il parlait un français absolument excellent, donc c'était très, très agréable. Voilà, donc oui, c'était une très belle rencontre.
C'est une rencontre de personnes. Ce qui est déjà une belle chose. Et vous, vous y connaissez en scan, en photogrammétrie, en ordinateur, vous êtes un geek, vous êtes quoi?
Alors, je ne suis pas un geek, je suis juste ce qu'il faut à un conservateur du 21e siècle pour savoir ce en quoi il peut être aidé par le numérique. Alors, c'est vrai qu'on... On parle beaucoup aujourd'hui dans les musées de toute la médiation numérique, donc c'est tous les petits films, tous les dispositifs numériques que vous pouvez avoir qui vous aident à comprendre l'archéologie. Et puis il y a une chose qu'on fait beaucoup aussi, qu'on commence à faire beaucoup dans les musées, c'est la numérisation des collections. Donc il y a la numérisation 2D, donc ça c'est la photographie, mais il y a de plus en plus de la numérisation 3D qui permet aux visiteurs du bout du monde de pas avoir à se déplacer et quand même avoir une sensation presque physique des œuvres. Donc ça, voilà, c'est un peu...
Donc, vous avez appris plein de choses techniques. Parce que moi, quand j'ai suivi sa visite de presse, entre la photogrammétrie, le scan, l'imprimante 3D, le digital, le numérique, comment vous définissez sa sculpture ou son travail pour un néophyte qui arrive dans l'exposition?
Alors, pour moi, c'est un peu un Rodin du 21e siècle. Vous savez peut-être que Rodin, il faisait des moulages où il travaillait la terre ou le plâtre, etc. Et ensuite, il passait par un praticien qui réalisait la sculpture en marbre ou en bronze. C'est un peu la même chose avec Oliver Larry, c'est-à-dire que lui, il part d'un concept, il part d'une forme et il va travailler ensuite avec des praticiens, mais des praticiens de la sculpture digitale.
Oui,
sont des sculpteurs numériques, tout à fait. Ils sculptent sur ordinateur. Alors, on pourrait se dire, je ne sais pas si vos auditeurs sont familiers des logiciels de traitement d'images type InDesign ou des choses comme ça, mais quand on voit ça, on est face à un écran normal. Et alors, pour avoir un petit peu échangé avec les sculpteurs numériques avec lesquels ils travaillaient, en fait, ces sculpteurs restituent un atelier numérique, une vraie réalité virtuelle. Ils sont dans leur atelier, ils ont les affiches des différentes photos tout autour et ils vont travailler avec des versions numériques, informatiques, des vrais outils de sculpteur. Donc les grattoirs, les burins, etc. Simplement, on appuie sur une touche, mais ça restitue.
C'est moins fatigant.
Exactement. Et comme ça, même avec des œuvres numériques, on réussit à avoir des traces d'outils. Alors les traces d'outils, on adore ça, les archéologues, les spécialistes de l'Antiquité, parce que ça donne tout plein d'informations sur la manière dont les sculptures ont été réalisées.
Oui, là, c'est le côté scientifique dont on parlait dans la première émission.
C'est ça, c'est ça. Et voilà, donc en fait, c'était assez, assez bouleversant de se dire que il n'y a rien de nouveau sous le soleil, à part le médium. Ouais.
Oui, parce qu'après, bon, une fois qu'il a restitué, vous avez dit c'est bien le terme qu'il faut employer.
Oui, restitué, reconstruit, on peut dire comme on veut.
Il emploie différents matériaux. Et c'est peut-être ça aussi qui est peut-être un peu sa touche, c'est-à-dire
Alors,
l'aluminium,
c'est tout à fait ça.
La résine, le nylon.
Alors en fait, Oliver Larrigue, déjà, il a commencé à travailler. Son œuvre, elle était que dématérialisée à l'origine. C'est l'époque où il s'intéressait beaucoup sur qu'est-ce qu'une œuvre aujourd'hui quand elle est numérique, donc elle n'a pas de matérialité et qu'elle est reproductible à l'infini. Donc ça, c'était la première. Ouais. Et quand il revient au physique, il part un petit peu du même principe, c'est-à-dire que tout le travail digital qui va être fait va être reproductible à l'infini et en plus, il va le partager au monde entier. C'est-à-dire que plein d'autres artistes peuvent récupérer son travail et le réinterpréter à leur tour.
Oui, il a parlé de son site dont je ne sais plus le nom.
3dscans.com, où tous ces scans sont visibles et sont récupérables par n'importe qui.
Actuellement, il y en a une centaine, je crois.
Oui, une centaine.
Et
oui.
Il a tout de même abordé le problème des droits d'auteur, puisque c'est d'accès libre.
C'est d'accès libre.
Avec tout de même un problème, si les grandes marques... il avait cité Coca-Cola ou Nike, voulait prendre une de ses œuvres.
Alors, c'est un peu ambivalent parce que lui, il laisse beaucoup faire. Hein. Par exemple, il a laissé un artiste qui a travaillé pour MTV récupérer son travail et lui, il l'a découvert. Il ne savait même pas.
Oui, il l'a dit. Alors,
il y a des time-lapses. Les time-lapses, c'est plutôt pour montrer comment on fait la sculpture digitale. Et puis après, lui, il a récupéré des vidéos ont été faits à travers ces scans, mais qui sont sans son autorisation, en fait. Hein, mais il le dit bien sur sa plateforme, il dit pour qui veut le prendre, hein, grosso modo.
C'est une éthique particulière, c'est une nouvelle catégorie d'artistes.
Je pense que ça va beaucoup... Lui, c'est un artiste qu'on appelle post-internet. Mmh. C'est le courant artistique qui s'appelle post-internet. Alors, ce n'est pas lui qui s'appelle comme ça, mais c'est la critique, la critique qui a nommé ça post-internet. Et ce qui est vraiment caractéristique de ça, c'est l'ouverture au maximum de tous les supports vers tout le monde. Mmh. Donc, une très grande ouverture. Et ça fait partie vraiment de son approche artistique. Le partage, le cosmopolitisme, etc. Mmh. Donc oui, il y a une grosse, un gros phénomène comme ça. C'est vrai que pour un musée, ça peut être un petit peu compliqué.
C'est problématique, tout
de
même.
On est souvent, d'ailleurs, les artistes, à part ce courant-là, sont souvent très jaloux de leurs droits, parce que c'est aussi leur moyen de subsistance. Et nous, dans les musées, on est assez jaloux de ce que vont devenir nos œuvres une fois qu'elles ont été numérisées. Parce qu'une fois qu'on a des photos qui circulent, une fois qu'on a des scans 3D qui circulent, on peut
c'est
se dire
que l'infini.
N'importe qui peut faire ce qu'il veut avec les œuvres. C'est une manière de se réapproprier tout ça. Mais c'est vrai qu'un scientifique, il n'a pas trop envie, si vous voulez, je ne sais pas, que le portrait de Tibère se retrouve avec des dreadlocks ou avec du rouge à lèvres. Mais c'est aussi un pas de côté et on peut aussi peut-être dédramatiser un petit peu les choses en se disant voilà, que la créativité n'empêche pas aussi le sérieux d'un autre côté.
Bien sûr. En fait, c'était comme un pont entre l'Antiquité et le monde contemporain. Dans les petits extraits qu'on a écoutés dans la première émission, je lui dis en fait, vous êtes un artiste de moins de 2000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est vrai que... Enfin, ça brouille les pistes, je reprends ce thème, ça brouille les pistes. Et puis, on reprendra d'autres thèmes comme l'animalité, l'hybridité. Et moi, j'insiste justement sur toute cette réflexion qu'il y a derrière, derrière le travail d'Oliver Larrigue. Et je reviens un peu sur les matériaux. Il en parle aussi dans les extraits de la première émission. Au début, il a commencé par le nylon, je crois. Ou par la résine.
Oui, par du nylon, par de la résine. Et après, au fur et à mesure, il a développé d'autres solutions techniques. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le moment où on imprime l'œuvre qui va donner la patte d'Oliver Larrigue, parce qu'avant, le travail a été fait par quelqu'un d'autre, comme on l'a bien compris. Et c'est lui qui va, par le choix de matière, par les choix des différents cadrages des impressions. Par exemple, il va réaliser la tête d'une statue en aluminium, le bras simplement dans une structure grillagée. Il va faire appel aussi à de la peinture pour voiture, peinture industrielle, etc. Donc, c'est vraiment là qu'il se passe quelque chose qui est de l'ordre de sa subjectivité d'artiste à lui. Et c'est aussi un pied de nez un peu aux faiblesses technologiques d'aujourd'hui, parce qu'il a fait ce choix aussi du patchwork. Parce que les imprimantes 3D, c'était très difficile de leur faire imprimer une statue
totalité.
Qui soit à taille humaine ou presque à taille humaine dans sa totalité. Donc, il a un petit peu détourné la limite pour la mettre au service de l'art.
Oui. Oui, en fait, l'homme est tout de même dépendant de la technique, toujours.
Et toujours, hein? L'art et l'imitation, hein? Ou l'art et l'imitation, en fonction de comment vous l'orthographiez.
Donc, c'est toujours très, très intéressant. Et on va venir justement aux œuvres, on en parle et puis on ne les décrit toujours pas, à part le Neptune dont on a parlé en première partie. Mais ces œuvres, et donc il en a choisi 20, et après, il a surtout travaillé sur 5. Donc, on va travailler sur ces 5-là. Mais avant, on va faire une petite pause après toutes ces questions techniques qui nous perturbent. Non, pas tant que ça. Mais ça incite, je pense, à venir voir l'exposition. On va faire une pause musicale et qui n'a rien à voir avec l'Antiquité, qui est votre goût vraiment personnel.
C'est tout à fait.
Et vous avez choisi la Fitzgerald Supper Time. Vous insistez bien, ce n'est pas Summer Time, c'est Supper
moins
Time,
connu.
Moins connu. Que j'ai découvert, j'ai écouté avant que vous n'arriviez. Il y a un texte très beau et puis cette diction de Ella Fitzgerald. Vous aimez particulièrement Ella Fitzgerald ?
J'aime beaucoup les grandes voix soul et jazz et il y a quelque chose d'assez émouvant dans cette chanson d'une femme des années 50 qui résonne parfois avec le destin des femmes d'aujourd'hui. Donc j'ai trouvé ça intéressant.
Supper time. I should set the table, 'cause it's supper time. Somehow I'm not able, 'cause that man of mine ain't coming home no more. Supper time. Kids will soon be yelling for their supper time. How'll I keep from telling that man of mine ain't coming home no more? How'll I keep explaining when they ask me where he's gone? How'll I keep from crying when I bring their supper on? How can I remind them to pray at their humble board? How can I be thankful when they start to thank the Lord? Should set the table, 'cause it's supper time. Somehow I'm not able, 'cause that man of mine ain't coming home no more. Ain't coming home.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous allons entrer enfin dans le vif du sujet, dont tout ce que vous nous avez expliqué avant, Nicolas Delarquet, nous aide à comprendre, surtout si nos auditeurs ne sont pas encore allés à l'exposition, il y a jusqu'à la fin de l'année, donc il y a largement le temps, au Musée de la Romanité. Alors, vous avez dit précédemment que la patte de l'artiste, c'est quand... Il choisit les matières, les matériaux, etc. Mais j'aimerais qu'on revienne justement sur la reproductibilité de l'œuvre. Mm-hmm. Parce qu'il y a tout de même une autre question. On a parlé des questions droit d'auteur. Et dans la mesure où on peut reproduire à l'infini, Est-ce qu'il y a un parallèle avec l'Antiquité? Et vous nous avez expliqué justement que dans l'Antiquité, il n'y avait pas qu'un modèle unique. Et on va parler des quatre exemples qu'il y a au musée. Donc en fait, 2000 ans d'écart, un peu plus de 2000 ans, mais le même questionnement en fait.
Alors ça, c'est ce que, moi je pense que c'est vraiment la raison pour laquelle on a sélectionné le travail d'Oliver Laric, parce qu'il nous permettait aussi de dire ça à nos visiteurs. Dans les musées aujourd'hui, on retrouve des œuvres qui viennent souvent de l'archéologie locale, et on a l'impression que c'est des uniques.
Oui, qui font leur valeur.
Et donc que ça fonctionne comme les œuvres telles que nous on les voit aujourd'hui, c'est-à-dire les Jocondes, les grands... Donc des œuvres uniques, et c'est ce qui fait leur valeur, c'est qu'elles ne sont pas reproduites et qu'il n'y a qu'un seul exemplaire.
Mais ce n'est pas vrai.
Et en fait, pour l'Antiquité, c'est particulièrement pas vrai, parce qu'à l'Antiquité, il y avait un modèle qui était souvent réalisé en bronze et qui ensuite était diffusé à travers tout le bassin méditerranéen, souvent retravaillé... En métal, ça pouvait arriver, mais souvent en marbre et puis en pierre, un petit peu moins noble. Et à chaque fois qu'on faisait une nouvelle copie, c'était un peu une nouvelle réinterprétation. Mmh. On pouvait changer un petit peu le positionnement, on pouvait transformer le costume, etc.
Là, on a un bel exemple avec l'enfant au chien.
On a tout à fait un bel exemple avec l'enfant au chien. Donc, pour vous parler peut-être un petit peu de cet enfant au chien, donc c'est un tout petit enfant joufflu, tout mignon, qui louche un peu et qui porte contre lui un tout petit chien, un petit bichon. Ça ressemble à un bichon, je ne suis pas sûr que ce soit la race de l'époque. Un petit bichon comme ça. Et en fait, on s'est rendu compte, on le savait depuis longtemps, qu'il y avait beaucoup d'autres exemples qui sont représentés dans les autres musées d'Europe. Et on a sélectionné... un exemple de Leyde, un exemple d'Athènes, un exemple de Ravenne également, et plus l'exemple de Nîmes. Et pour la première fois, ces quatre enfants au chien qui viennent peut-être d'un même atelier, mais encore, on n'est pas tout à fait sûr, le modèle à la base est le même, se sont pour la première fois, au XXIe siècle, retrouvés ensemble dans un même lieu d'exposition. Donc ça, c'était assez...
C'est très interpellant.
Émouvant, interpellant. Et puis même, Oliver Laric a été jusqu'à essayer de s'approcher au plus proche, alors là, c'est très hypothétique, mais justement du modèle originel, et ce qui, lui, est perdu. Donc, c'était assez intéressant.
Alors là, c'est dans la deuxième partie de l'exposition. Et tout à fait à la fin de l'exposition, il y a la statue...
De Neptune.
De l'enfant au chien.
De l'enfant au chien.
Je voulais terminer sur l'enfant au chien. Et vous nous aviez posé une question. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui manque dans la statue d'Oliver Laric? Et personne n'a trouvé.
Personne n'a trouvé parce qu'en fait, on a l'impression que c'est exactement la même. Mais pourtant, il manque une chose très, très importante. C'est qu'une statue de marbre, pour tenir, elle a souvent besoin, parce que le marbre est fragile et lourd, elle a souvent besoin de ce qu'on appelle un pôle de soutien. Alors qu'une statue en bronze, on n'a pas besoin parce qu'elle est creuse.
Elle est creuse,
Et plus légère. Et là, il l'a retirée. Il l'a retirée, donc on s'approche peut-être de l'original en bronze.
C'est toute la relativité de l'œil humain, puisque je pense que tout le monde connaissait l'enfant au chien, et en fait, on n'a pas vu qu'il n'y avait pas de pôle.
Et personne n'a reconnu que le pôle...
Donc, c'est très interrogateur, même pour soi-même. Qu'est-ce que l'on voit? Pourquoi on voit de cette façon? Et puis, je crois qu'il y a deux autres exemplaires, mais que vous n'avez pas pu avoir. C'est celui de Naples et de...
Alors, celui de Naples, qui lui fait absolument de manière certaine partie de la série des enfants au chien. Là, on n'a pas réussi à créer le réseau, le réseau nécessaire. En plus, le musée de Naples changeait de directeur, c'était compliqué. Et il y a peut-être un exemple à Catane, en Sicile. Et là, on n'est pas trop sûr que ça procède du même modèle.
Mais c'est vrai que ces quatre enfants ou chiens, là, côte à côte, en aluminium...
En aluminium, ils brillent comme si c'était de l'argent, assez bling-bling.
C'est très drôle d'écouter les commentaires. On pense à un nain de jardin, l'autre pense à un sapin de Noël. Et puis l'anecdote, je crois que c'est Cécile Carrier qui nous l'a rapporté, du nom de celui d'Athènes qui est le réfugié.
Oui.
Donc, si dans l'Antiquité, il y avait déjà le problème de ces réfugiés, de l'immigration.
Alors ça pose une autre question. C'est vrai qu'on va dire que... en fait, ce qui est intéressant dans l'œuvre d'Oliver Laric, c'est qu'elle crée un continuum de temps. Donc, il réactive un petit peu la série des enfants aux chiens. Et, l'enfant au chien athénien, il a été nommé comme ça parce qu'il a un petit capuchon sur la tête et donc il évoque un peu les réfugiés un peu vêtus de briques et de broc. Alors qu'évidemment, ça n'a rien à voir avec, la vision d'un réfugié, mais ça renvoie à l'actualité d'aujourd'hui où la Grèce est en pôle position de tous les phénomènes migratoires.
C'est vrai que dans ces 30 ans du carré d'art, il y a vraiment le lien entre le passé, le présent et même l'avenir. Hein. On sent que... et c'est en ça qu'il y a peut-être un autre public qui va venir. L'art contemporain dans un musée de l'art humanité, c'est quelque chose qui se passe. Quoi. C'est un impact, un pont, une passerelle, quelque chose.
On a l'intersection de deux désirs de culture qui sont par souvent différents et qu'on aimerait bien faire se rejoindre.
Alors peut-être que... On pourrait commencer, d'ailleurs, l'exposition commence par là, c'est pas très logique, mais...
C'est pas grave, on l'a discuté.
Il y a quel est son titre ? Une femme endormie ?
Alors oui, figure endormie.
Et alors là, c'est tout de même assez extraordinaire de savoir qu'au début, c'était une femme allaitant des enfants, alors, avec un sexe masculin, et en fait, le propriétaire, l'acquéreur, a tout changé.
C'est ça, donc c'est une histoire qui est au point de départ vraiment de l'exposition. C'est pour ça qu'on a ouvert l'exposition avec cette œuvre-là. Oliver Larick, il y a quelques années, a découvert donc cette antique, donc une œuvre vraiment antique, qui a été achetée par un Anglais au XVIIIe siècle et qui représentait un hermaphrodite, c'est-à-dire une personne à la fois homme et femme, qui allaitait et maternait des enfants. Et donc, ce collectionneur du XVIIIe siècle, ça ne correspondait pas du tout à son idéologie de l'époque. Et donc, il s'est dit, je vais enlever les enfants, je vais enlever le sexe masculin de cette statue.
Ça ne posait aucun
problème.
Il
n'y avait pas de notion d'intégrité, d'original, etc. Donc, il a retaillé tout ça. Et donc, il a perdu la forme originelle de la statue. Et Oliver Larick met le doigt sur un dessin qui est conservée au British Museum et qui représente la statue telle qu'elle était avant qu'elle soit abîmée par ce collectionneur. Et grâce à ce dessin, il propose de restituer l'œuvre originale. Donc là, on se pose une question. Quelle est l'œuvre originelle ? Est-ce que c'est l'œuvre originelle qui est toujours conservée, qui a été retaillée, mais qui, elle, a passé à travers le temps, qui a été beaucoup modifiée, mais a passé à travers le temps ? Ou est-ce que c'est la proposition que fait Oliver Larick ?
Eh oui, donc beaucoup de questions. Et c'est intéressant de commencer par cela, justement, pour comprendre aussi cette notion de restitution, d'œuvre d'art, d'aspect scientifique. En fait, les trois sont toujours...
Les trois sont toujours très liés, en particulier sur ce travail-là.
Sur ce travail. Donc, vous l'avez spécifié aussi, il n'y a pas de petits cartels, il y a des grands panneaux explicatifs. Et il est peut-être bienvenu de les lire, peut-être avant.
Oui, alors c'est sûr.
Chacun fait comme il veut.
Chacun fait comme il veut, parce qu'en fonction de si on est plutôt un visiteur de musée archéologique, on va avoir envie d'avoir de l'information et de comprendre justement comment s'est fait le pont entre les deux. Et après, si on est plutôt un esthète amateur d'art contemporain, on peut complètement se repaître de l'esthétique elle-même.
Alors vous qui à l'origine êtes plutôt égyptologue,
complètement. Hein,
j'ai l'impression qu'il y a une œuvre qui vous interpelle particulièrement et qui est très belle aussi parce qu'on peut tourner autour et on se rend compte justement du creux dont vous parliez tout à l'heure. J'aimerais redire aussi, Oliver Larick l'a bien insisté dessus, que ces œuvres sont légères, donc
très
transportables, et que parfois il faut mettre des armatures, Alors, parlez-vous de cet Hermanubis.
Alors, Hermanubis, donc, comme son nom l'indique, c'est une représentation hybride entre Hermès et le dieu égyptien Anubis. Donc, vous avez en fait une figure qui est humaine avec une tête de chacal, de chien, de canidé.
Enfin, ça, c'est très
donc,
commun.
Donc, très égyptien. Oliver Larick est très intéressé à la question de l'hybridité homme-animal en règle générale, de la relation déjà de l'homme à l'animal. C'est aussi une question qui est dans l'air du temps aujourd'hui, comment l'homme considère l'animal. Et grâce à cette figure-là, il mixe un peu les deux en un seul et même en une seule et même figure. Et donc, il coupe la frontière qu'il y a entre l'animalité et l'humanité. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est presque un contresens avec l'Antiquité, puisque les Égyptiens, quand ils ont créé ces figures hybrides, c'était pour évoquer le sacré, évoquer le fantasmagorique, alors que lui, il ramène ça vraiment à l'humanité, et il fait référence à un mouvement qui s'appelle le furry fandom, qui est une manière, qui est une forme de cosplay, donc de pratique de costume, où des hommes, des individus humains se déguisent en animaux pour justement interroger l'anthropocentrisme des hommes et le fait que les animaux sont un peu un vivant inférieur.
Alors vous, qu'est-ce que vous ressentez devant Herman Ubbies ?
Qu'est-ce que je ressens devant Herman Ubbies ?
Alors qu'il y a plusieurs couleurs, qu'il y a des perforations carrées, losanges.
J'avoue que j'ai beau être spécialiste de l'Antiquité, je peux tout à fait regarder une œuvre sans rien en comprendre et rester des heures devant, simplement parce que la muséographie est belle, l'éclairage est beau, que ça brille, que ça m'intéresse de sentir un petit peu les matières différentes, de regarder, comme vous disiez, à l'intérieur de la statue, de me demander mais combien elle pèse, etc. Et puis après, c'est sûr que je reviens un peu à mes premières amours avec l'égyptologie. Et donc, ça me fait me dire que un peu la mission qui peut être celle d'un conservateur en antiquité, en archéologie, c'est de décrire tout un monde qui n'existe plus, qui a une forme d'exotisme temporel, comme ça, où en fait, on peut se permettre soit de donner un discours hyper pédagogique, hyper clair, mais aussi on peut se permettre de fantasmer. Et ça sert un peu à ça aussi, l'histoire. Ouais. Ça peut servir à fantasmer.
Mais je crois que c'est très important ce que vous dites, parce que souvent on entend « mais j'y comprends rien ».
Mais on n'a pas besoin de comprendre forcément.
Il n'y a pas nécessité de comprendre. On peut se laisser porter, on peut se laisser... Bon, c'est peut-être différent devant le Neptune, parce que vous avez parlé de ce lien avec les Nîmois. Il y avait une très belle reconstitution à la chapelle des Jésuites, à l'époque de Dominique d'Armé. Elle n'était pas remise en eau. Donc, mais on n'est pas obligé de comprendre. Je crois que c'est très important. Et justement, casser peut-être ces complexes. Là, d'autant plus qu'il faut aller dans un musée de l'art humanité pour voir une exposition contemporaine.
C'est ça.
Des 30 ans du carré d'art, on le malmène, notre pauvre.
Il faut se sentir très décomplexé dans un musée. Moi, je me souviendrai toujours, j'étais jeune étudiant, j'arrivais à l'école du Louvre, c'était ma première semaine à l'école du Louvre, je suis rentré dans le parcours de la Grèce, de la Grèce pré-classique, et j'ai rien compris. Et je me suis senti
tout petit,
complètement ignare, rien du tout. Et puis, au fur et à mesure, j'ai appris que je pouvais me promener dans un musée. Et on peut se promener dans un musée avec un casque, avec de la musique, avec un livre, s'arrêter un instant et profiter aussi, se raconter sa propre histoire. C'est tout à fait. Et je pense que l'artiste, c'est ce qu'il a envie. Parce que moi, je vous livre un discours très construit, très scientifique, etc. L'artiste, il a envie que vous veniez rêver devant ses œuvres.
Et Olivier Larrec le disait aussi, elle avait dit la première production, j'étais pas contente. Et pourquoi ? Content ? Pourquoi ? Je sais pas, c'était au niveau du feeling.
C'est du sensible.
Au niveau du sensible, au niveau du ressenti. J'espère qu'avec ces deux émissions, merci encore Nicolas, j'espère que tous nos auditeurs vont aller au Musée de l'Art Humanité.
J'espère aussi.
Jusqu'à la fin de l'année, donc il y a le temps. Merci encore.
Merci beaucoup.
Alliance Plus.